Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International pour notre deuxième édition. Et tout de suite, l'affiche de cette prochaine demi-finale, PSG-Borussia Dortmund. Premier qualifié au terme de deux matchs ultra disputés dont nous allons vous parler maintenant. Les Parisiens auteurs à Barcelone de leur remontée. Victoire 4-1 des hommes de Luis Enrique, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé et un deuxième but d'Ousmane Dembélé, l'homme du match. Un PSG à la hauteur de l'enjeu ce soir, qui a donc retrouvé son atout numéro 1, Kylian Mbappé. Et nous retrouverons d'ici quelques instants Cédric de Oliveira qui vous a fait suivre ce match. À Dortmund, le BVB a éliminé l'Atlético de Madrid d'un score de 4-2 pour des joueurs allemands qui avaient à cœur de se qualifier devant leur public, devant leur mur jaune. Les voilà de retour dans le dernier carré 11 ans plus tard. Futurs adversaires donc du Paris Saint-Germain. Et puis le coup d'envoi des JO ce matin en Grèce, où la flamme olympique a débuté son très long parcours vers Paris. Le foot, une discipline à part entière dans cette Olympiade à venir et dans les Olympiades en général. Et les Bleus avec ou sans Kylian Mbappé, eh bien l'espoir existe encore apparemment. Pour parler de ces matchs du soir avec Cédric de Oliveira, nous avons Naïm Moniol. Bonsoir Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Tout va bien?
Ça va et vous? Oui, ouais. Oui, ça va. Là, hein, ce soir, ça va.
Quelle folle soirée. Bonsoir Ludovic Duchesne.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
C'est vrai qu'on a eu du spectacle ce soir et c'est ce dont on va parler. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gelderet à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Il va rentrer dans son réparation, bien mal, le centre, ouh, et c'est le but. Et c'est le but barcelonais sur ce débordement. Pour Barcola à gauche, Barcola le centre pour Mbappé. Oh, le but, Dembélé, l'égalisation. Et ben voilà, Ousmane Dembélé. Attention, la frappe de Vitinha. La frappe de Vitinha. Et le deuxième but parisien. Il était tout seul, le milieu de terrain portugais. Et c'est parti pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est dedans. C'est dedans, c'est parfait. Il était parti du bon côté, Ter Stegen. Mais la frappe. Et le troisième but pour le PSG. Mbappé dans la zone de réparation. Kylian Mbappé, la frappe. C'est repoussé par Ter Stegen. La frappe derrière. Oh, la double parade de Ter Stegen. La frappe d'Hakimi. Et le quatrième but parisien. Le quatrième but parisien.
Un quatrième but donc est synonyme de qualification directe cette fois. Ce sont donc les supporters du Barça qui pleuraient dans les travées du stade Montjuïc. Les Parisiens l'ont emporté dans le temps réglementaire, remontant donc leur handicap après la défaite au Parc des Princes il y a à peine une semaine. Ils étaient donc tout sourire sur la pelouse, fêtant ardemment leur qualification et prenant le temps de se congratuler les uns les autres. On va entendre tout de suite la réaction d'un des acteurs de cette soirée. Il avait marqué à l'aller, il marque au retour et il est l'homme du match, Ousmane Dembélé.
Tout le monde y a cru, même si à l'aller, nous avons perdu 3-2. On n'en a pas baissé les bras, on savait qu'on allait marquer des buts ici à Barcelone. Et voilà, un grand travail de toute l'équipe. Voilà, toute la semaine, on a travaillé tactiquement avec le coach et sa tactique a été parfaite. Et on l'a vu sur le match, même si on a pris le premier but, on ne s'est pas relâché. Et on a continué à croire parce que quoi qu'il arrive, on devait gagner ce match. Donc même si on perdait 1-0, on devait revenir pour gagner ce match. Et on a fait un grand effort et tout le monde a été exceptionnel durant tout le match. Et voilà, on est qualifié.
On est qualifié. Il est content donc, Ousmane Dembélé. Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Bon, alors, cette fois, vous étiez du bon côté, hein, vous n'avez pas été chat noir. Et c'était quand même un match incroyable. On a retrouvé Kylian Mbappé, mais surtout, Cédric, est-ce que vous allez apprendre à vos collègues espagnols le mot « remonter » ?
Oui, alors bon, oui, là, c'est une demain. Petite, une pequeña, une pequeña remontada. Oui, c'est vrai que le PSG a fait le match. J'allais pas dire qu'il fallait, mais en tout cas le scénario là, eh bien l'a aidé. Ils étaient franchement quand ils étaient menés 1-0 par ce but de Rafinha.
12e minute.
Au bout de même pas un quart d'heure, c'était difficile de voir. j'ai écouté là. Ousmane Dembélé, qui, mais en tout cas, c'est la force de ce PSG. En tout cas, c'est ne pas avoir paniqué. Effectivement, effectivement, et d'avoir insisté un peu sur ce côté gauche fort de Bradley Barcola, et bien sur cette action qui finalement a tout changé, hein, puisque Araujo, pardon, j'ai eu du mal à prononcer son nom tout le match au défenseur uruguayen, mais voilà, il a laissé traîner son bras, et derrière, exclusion finalement logique, hein, carton rouge, mais il aurait mieux fait presque et bien de laisser partir Barcola au but, puisque ça a déstabilisé tout le Barça. Il y a eu cette égalisation derrière de Dembélé, et puis Paris, 11 contre 10, c'était plus facile, il y avait plus d'espace notamment sur les côtés, d'un côté Dembélé, d'un côté Barcola, donc la frappe de Vitinha qui était tout seul aux abords de la surface de réparation, et puis derrière ce pénalty provoqué par Dembélé, et effectivement il faut souligner que Kylian Mbappé n'a pas été très, très tranchant dans le jeu, mais en tout cas il a marqué son pénalty et il a été opportuniste pour marquer le dernier but, donc soirée parfaite pour le PSG qui pourra dire qui a pris déjà sa revanche face au Barça par rapport au match aller, et puis un petit peu dans les têtes pour dire on va peut-être définitivement effacer le souvenir de 2017 et dire que eux aussi ils sont capables d'aller remporter ce genre de double confrontation.
Oui, surtout qu'ils ont progressé sans doute psychologiquement. C'est vrai que Naïm, quand on les a vus partir avec un handicap d'un but et qu'ils en prennent un dans le premier quart d'heure, on se dit ça peut être mal parti, et ils ont prouvé à tout le monde qu'ils pouvaient renverser la situation cette fois.
Le début de match est raté, disons-le clairement, puisqu'il y a un but qui est encaissé, il y a surtout une grosse possession du ballon, une grosse conquête territoriale, mais zéro frappe cadrée pendant 15-20 minutes. Et puis effectivement les événements ont fait, alors moi je vois deux tournants dans ce match, et effectivement le carton rouge d'Araujo sur la faute de Barcola.
C'est facile pour personne.
Oui, je vais dire un rougeau, hein, comme tout le monde. Et puis voilà. Mais il y a surtout, avant le carton rouge, il y a ce raté de Lewandowski dans la surface de réparation, ce qui ne rate normalement jamais un joueur de cette qualité. Ça peut faire 2-0 très rapidement. Et avec la réduction du score, Paris a remis la main. La réduction du score et le changement de Xavi, qui a sorti Lamine Yamal, donc qui a retiré de la percussion, de la vitesse, de la technique, de l'efficacité pour mettre Inigo Martinez. Du vice, de l'impact, mais quand même un joueur nettement en deçà d'un point de vue footballistique. Et puis derrière, le PSG, à partir du moment où il a égalisé, a repris l'ascendant psychologique, parce qu'on a peut-être oublié quelque chose après le match aller, et a raison, le Barça avait gagné, il avait fait son match, c'est que le Barça a des qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts, et notamment cette défense qui est très perméable, et Bradley Barcola en a évidemment profité.
C'est un peu là où je voulais en venir, Ludovic. On a eu un PSG meilleur nettement ce soir, mais on a eu aussi un Barça, alors à 10, c'est sûr, mais qui était moins bon quand même.
Oui, faut dire aussi que c'était pas les mêmes joueurs du côté parisien sur le terrain, donc ça change beaucoup de choses déjà au départ, avec notamment le retour d'Hakimi, mais pas que. Et après, oui, j'ai trouvé que moi, il y avait une équipe... Si on doit accorder un crédit à Luis Enrique, c'est vraiment celui d'apporter du calme et de la sérénité à son équipe, parce qu'on l'a ressenti tout le temps, en fait.
On l'a vu très énervé en fin de match, très tendu, en tout cas.
Oui, mais pas les joueurs, même l'avant-match. Il y avait des discours qui se voulaient en tout cas très rassurants.
Vous avez entendu Ousmane Dembélé, il le dit d'ailleurs, la tactique que nous avait donnée le coach et tout, il rend hommage indirectement à Luis Enrique.
On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, on a senti, il n'y a jamais eu d'énervement. Et je dis ça, Annie, parce que je veux en venir au fait que j'ai trouvé que de l'autre côté, une équipe extrêmement nerveuse. Avec,
dès qu'ils ont été à 10.
2-1. À 2-1, c'était terminé.
Xavi un rouge, l'assistant qui a pris aussi un rouge. Des joueurs qui étaient souvent dépassés, en tout cas, qui n'ont pas su réagir. Et qui ont été d'une grande nervosité. Et le Barça a complètement perdu le fil. Ils marquent sur leur première occasion. C'était un scénario idéal pour eux. Et en fait, ils ont complètement craqué, à l'image de la faute d'Araujo qui se fait logiquement expulser. Donc d'un côté, beaucoup de sérénité. Et de l'autre, une équipe beaucoup trop nerveuse pour continuer sa route en Ligue des Champions.
Peut-on parler, Cédric, selon vous, d'un collectif retrouvé du côté du Paris Saint-Germain ce soir? Parce qu'on critiquait quand même cet état d'esprit parfois, ce côté collectif qui manquait dans l'équipe.
Bah, je, pas, je dirais pas que c'était retrouvé parce que dans l'état d'esprit, le PSG a, je trouve, a fait une saison assez, enfin, avec un nouvel état d'esprit justement par rapport aux saisons d'avant. Et, au match aller, c'était pas vraiment ça le problème. Il y avait eu surtout des erreurs individuelles qui avaient coûté, oui. Et bien qui avaient été punies directement par les Barcelonais. Non, je dirais surtout que voilà, en tout cas, il y a eu des joueurs qui ont fait des gros matchs, notamment. Alors, on parlait de Barcola, de Dembélé, mais il y a aussi Marquinhos qui a fait franchement un défenseur brésilien, et évidemment Vitinha qui est l'homme, l'homme du PSG, l'homme du PSG depuis depuis deux mois. Et au-delà de son but, il n'avait pas à rougir hein, de face face à, en face il y avait quand même Gundogan, De Jong et Pedri, mais
il était là,
je pense qu'il aurait pu. Ouais, bah ouais, c'est ça a été plus compliqué pour lui, mais après non mais c'est en fait c'est un peu difficile aussi de je trouve de tirer des conclusions par rapport à ce qu'ont fait les Barcelonais. C'est vrai qu'ils ont été évidemment beaucoup plus tendus, mais à 10 contre 11 bah, ça change quand même beaucoup de choses,
et ils ont été dangereux
en
quand
tout
même.
Cas, en tout cas voilà, et là où le PSG a été bon, c'est qu'il a été capable en tout cas de profiter de ces espaces, et notamment Dembélé, et d'aller marquer les buts qu'il fallait. Et de l'autre côté, bah, il y avait un petit peu plus d'impuissance, et c'est vrai que c'est surprenant de voir Xavi en tout cas se faire exclure comme ça, ça envoie pas un très bon signal à ses joueurs derrière de voir son entraîneur comme ça.
Mm-hmm. Sure. Et souvent ce qui faisait défaut sur les années précédentes, que ce soit contre le Real Madrid, que ce soit contre Manchester City, c'est qu'à ce moment-là de la saison, tu disais, le PSG, c'est pas qu'il est pas bon dans le jeu, tu sais qu'il pourrait faire la différence, mais il leur manque des leaders, il leur manque des patrons. Et ce soir, Marquinhos, ça a été un patron retrouvé qu'on n'avait pas vu comme ça depuis peut-être 3-4 saisons en Ligue des Champions, vraiment. Dembélé, qu'on n'attendait peut-être pas dans le rôle du leader, parce que c'est un garçon qui est capable de mettre la pagaille dans le jeu adverse, mais qui a des vrais problèmes de finition. Qui est... Tout à l'heure, le commentateur parlait d'insouciance. C'est vrai qu'il est parfois un peu dans la lune et qu'il n'a pas réellement, en tout cas dans les 20 derniers mètres, le comportement d'un joueur de haut niveau. On n'attendait pas forcément Vitinha comme leader d'homme, qui soit leader technique dans ce milieu-là, je veux bien, mais leader d'homme, pas forcément. Et ce soir, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a eu des leaders qu'on attendait peut-être pas forcément. Tout le monde pensait que Mbappé allait être le patron de l'équipe, machin. Il a mis un doublé, mais il n'a pas fait un match transcendant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'à ce moment-là de la saison, dans ces matchs-là, le PSG des leaders, c'est souvent ce qui lui a fait défaut. Ce soir, il les a eus. Et c'est pas tout le temps le cas, ça doit être souligné.
On va l'écouter, Vitinha, qui a été auteur, donc le milieu de terrain, auteur d'un très bon match, comme au match aller d'ailleurs, Vitinha, le milieu de terrain portugais.
C'est incroyable la sensation, c'est difficile d'expliquer. J'ai rêvé avec ça il fait longtemps. J'ai rêvé avec ça pour marquer, pour aider l'équipe, pour gagner, surtout pour être en demi-finale. Et on est en demi-finale. Il faut souligner, il faut donner le mérite, parce que le supporter, il nous croit. Mais à part le supporter, je pense qu'il n'y a personne qui nous croit. Et il faut montrer ça. Et c'est ça qu'on a fait dans le terrain. Même avec le but qu'on a encaissé, on n'a pas lâché. Et c'est difficile mentalement. Le coach a dit qu'on va gagner le match dans la tête, dans le mental. On a fait un match incroyable. Gagner ici 4-1, c'est incroyable.
Effectivement, une victoire et un score incroyable. Cédric, vous qui êtes dans le stade, on a vu quand même une joie débordante qui soulignait sans doute l'exploit qu'estiment avoir réalisé les joueurs du Paris Saint-Germain. Une joie assez démonstrative face aux 3000 supporters français qui étaient dans le stade.
Oui, ouais, belle communion. Hein. C'est vrai que ça fait un peu partie de l'état d'esprit. Voilà, il se passe un truc, en tout cas dans cette équipe. Et avec leurs supporters, ils sont allés célébrer ça. C'est vrai que sur le deuxième but, on avait presque l'impression en fait que c'était le but de la qualification, alors qu'il les ramenait simplement à égalité. Mais il y a de la joie. Et il y avait déjà, pour rebondir un peu sur ce que disait Ludovic tout à l'heure, c'est vrai que l'avant-match, il dégageait quand même une sérénité, une certaine jovialité, et le fait de dire non, mais nous on a confiance en nous. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu circonspect, perplexe, notamment par rapport au match aller. On se disait, mais attendez les gars, vous avez vu le même match que nous, Mais quand on dégage cette sérénité et que derrière on a raison, on n'a plus qu'à les féliciter et à s'incliner, en tout cas devant leur qualification, parce qu'elle n'est pas volée.
Ludovic, est-ce qu'on vous parleriez d'exploit du Paris Saint-Germain ce soir ?
Non, mais je parlerai de match référence. Je pense que c'est vraiment un marqueur.
Surtout psychologiquement, ce que disait Cédric, absolument. Sur effacer un peu les fantômes.
Un marqueur très très fort pour cette équipe-là, puisque
Moi, je ne veux pas aller jusqu'à la remontada, etc. Je pense que c'est du passé. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là, par rapport même aux 2-3 dernières années, je pense que c'est un marqueur très très fort d'aller gagner quand même 4-1 à Barcelone. Donc voilà, c'est pas rien, c'est un... Bon, je sais pas si c'est un exploit ou pas, mais de toute façon, c'est une très très grande performance. Et sur ce qu'on a vu, parce que le Barça a eu des occasions, mais Paris a eu une multitude d'occasions. Quand on regarde les statistiques, c'est 67% de possession, c'est 21 tirs à 7, c'est 3 fois plus de tirs cadrés, c'est 3 fois plus de passes. À 11 contre 10, c'est vrai, mais quand même, ils ont vraiment écrasé le Barça dans toutes les statistiques. Et mentalement, j'ai trouvé que le PSG, ce soir, était au très très haut niveau. Et là où au match aller, il y avait eu des défaillances, Cédric le disait tout à l'heure, individuelles, c'est ce qui avait fait la différence. Alors ça avait très mal commencé parce que Nuno Mendes a fait un premier quart d'heure absolument horrible, mais Paris s'est repris et individuellement, chacun, ils se sont repris. Et c'est vrai que moi, je suis quand même assez bluffé. Moi, j'aurais donné le trophée à Bradley Barcola. J'ai trouvé qu'il avait fait un match. Ouais. C'est un joueur qui est en train d'exploser. Et je trouve que c'est un très jeune joueur. Quel âge il a, Cédric? 20, 21
19, je crois.
Ouais, 21. Ouais.
C'est fantastique. Il est vraiment... Ça, c'est un pari réussi pour le Paris Saint-Germain. Celui-là, il est réussi déjà.
Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on n'a pas vu de match référence au PSG en Ligue des Champions depuis 2 ans. La campagne l'année dernière, elle est ratée. Même la phase de poule face à Benfica, face à Tel Haïfa, c'était pas bon. Oui. Il y a eu une phase de poule cette année, ça a été le nombre de points, le total de points le plus faible de l'ère qatari. Il faut pas oublier, il faut se rappeler le match retour. Il faut se rappeler le match contre Newcastle et le penalty marqué par Mbappé. Tu passes par un trou de souris parce que tu peux même être en Ligue Europa.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et la Real Sociedad t'a gagné, mais l'adversité faisait que c'était compliqué de parler de match référence. Donc t'as pas vu un PSG brillant en Ligue des Champions depuis 2 ans. Tout n'est pas parfait, mais quelle équipe est réellement parfaite? 90 minutes en Ligue des Champions, finalement, il n'y en a pas tellement. Donc ça se souligne ce soir, le PSG a fait un pas en avant. Il a toujours l'habitude d'en faire un en avant, deux en arrière. Donc on est content quand il en fait un avant, parce que là, ce soir, ça a marqué d'une pierre blanche. Là.
Cédric, Naïm vient de dire tout n'est pas parfait. Et c'est vrai que par moments, quand même, on trouvait qu'elle manquait d'énergie, d'intensité, cette équipe sur le terrain, par moments où on avait envie de l'avoir accélérée. Et finalement... ça manquait un peu de cette intensité.
En fait, je mettrais un petit bémol, effectivement. C'est, en fait, c'est de ne pas être... Alors là, ça a tourné, mais c'est de ne pas être, faire partie de ces équipes comme ça qui vont tuer, justement, leur adversaire en profitant des faiblesses. Finalement, c'est ce qu'elle n'a pas fait au match aller. Quand elle menait 2-1 et qu'elle a eu des occasions et qu'elle aurait pu, justement, marquer ce troisième but et peut-être faire tourner le match aller, là, quand ils ont marqué le deuxième, il y a eu tout de suite un moment de fébrilité, les Barcelonais ont accéléré, il y a Gundogan qui a touché le poteau et ils étaient quand même 10 contre 11 les Barcelonais, ils ont tout balancé devant et on sentait qu'à chaque ballon pris par Rafinha, par Lewandowski, derrière Lewandowski je crois qu'il fait une frappe, c'est repoussé par Donnarumma et c'est là que Marquinhos fait quand même l'intervention,
l'intervention
du match, il a été énorme. Mais vous voyez, c'est ce genre de période comme ça où ils sont un peu tangents et on se dit en fait, sur ce genre de période, Barcelone a marqué la semaine dernière. Donc, il n'y a pas vraiment de continuité sur tout le match. Là, ça a marché, tant mieux. Mais c'est peut-être là qu'elle doit progresser, cette équipe parisienne.
On a évidemment eu un Barça qui a été un ton en dessous. Certains qu'on avait vus un peu meilleurs même lors du match aller. Je pense à Jules Koundé qui est parfois en difficulté sur ce rôle de latéral. Mais là, on l'avait vu un peu mieux. Là, c'était beaucoup moins bien ce soir. Et on va l'écouter, Jules Koundé. Il était au micro de nos confrères de Canal+, en réaction d'après-match.
On est déçus. Enfin, un très bon match à l'aller avec une très belle victoire. On a montré qu'on était capable de rivaliser. Et puis voilà, on avait bien commencé. Et puis après, on gagne, on perd en équipe. Donc on n'est pas là pour signaler quelqu'un. Mais c'est vrai que jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes, c'était juste trop dur. En plus, on a encaissé ce but avant la mi-temps qui nous fait mal. Et puis après, tout était plus compliqué.
Oui, tout était plus compliqué. Évidemment, pour le Barça, c'est vrai qu'on les a vus semi-euphoriques quand ils marquent ce but en se disant on en avait un d'avance, maintenant ça fait deux. Et puis finalement, on les voit ensuite très vite devenir très nerveux et perdre le dessus psychologiquement après l'exclusion. Ils se rendent compte, surtout que Xavi très vite sort
Yamal
et que là...
Mais Xavi aussi a perdu ses nerfs dans cette partie. Donc c'était aussi...
Et lui et son adjoint, vous l'avez dit.
Très étonnant. Et c'est vrai que l'exclusion, très clairement, c'est le tournant du match. Je ne sais pas du tout si on aurait eu la même analyse si ça avait été à 11 contre 11 jusqu'au bout. Ça. Donc ça, ça change tout. Et c'est à mettre au crédit de Barcola qui fait un festival sur la gauche. Mais faut-il encore aller gagner ?
Il fait la bonne course hein, pour aller. Justement, il fait vraiment une course très intelligente. Puis, il est obligé de faire ça en fait.
Faut quand même voir quelque chose pour le Barça. C'est que il y a un quart de finale de Ligue des Champions, une deuxième place en championnat, c'est très bien. Mais tu ne rattraperas pas le Real. En championnat, t'es éliminé par une équipe plus faible que toi en Coupe du Roi. Il te restait finalement que la Ligue des Champions pour ne pas faire une saison blanche. T'es éliminé, donc c'est-à-dire que globalement, tu ne gagneras rien cette année. Alors, Xavi a annoncé qu'il partait. Vous me dites, certaines voix, qui finalement, ils vont peut-être trouver un accord, il va rester. Mais globalement, on peut aussi parler de vraies contre-performances pour le Barça. Parce que si c'est 4-1 au Parc et puis 3-2 chez toi, tu dis bon, t'as perdu là-bas. Mais là, t'en prends une sacrée à domicile. Réellement, dans un match où finalement tu n'avais pas à faire le jeu puisque c'était toi qui étais devant, tu t'es mis en difficulté, tu as encaissé 4 buts. Voilà, il y a des vraies questions qui vont se poser à partir de demain matin. Quoi.
Ouais, et ce soir. On a parlé de à juste titre parce que je pense que le danger au Paris Saint-Germain reste sa défense. Et j'ai envie de dire aussi son gardien, même si ce soir, il n'a pas montré trop de signes de fébrilité. Ouais, mais la défense du Barça, moi, m'a vraiment inquiété.
C'était le cas à l'aller aussi.
J'ai trouvé très inquiétant.
Koundé, les 2-3 fois où il se fait déborder, il a terminé à terre en tirant le maillot. Arojo avait été pris 3-4-5 fois dans la même feinte.
Naïm, tu vois, tu mets un gamin de 17 ans, et Dieu sait s'il est bon en plus.
Ouais.
Mais du coup, ça veut dire que dans le club, tu n'as pas autre chose qu'un gamin de 17 ans en défense centrale. Alors, il y a des blessés, on le sait.
Il a répondu présent quand même.
Non, il était bon.
Il a été bon. Il a répondu présent. Non, moi, je dirais plus, en fait, on a oublié d'en parler, mais c'est vrai, c'est peut-être un autre tournant, mais ce penalty de Dembélé, en fait, la faute de Cancelo,
elle est folle, elle est dingue.
Pendant le direct, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis à Ibrahima Traoré, qui était notre consultant là pendant le match, j'ai dit, je ne comprends pas. En fait, je pensais pas qu'il y avait penalty, parce que tellement c'est-à-dire que Dembélé partait de l'autre côté.
Il partait vers le
donc c'est pas du tout dangereux. Et là, Cancelo, je sais pas ce qu'il fait, mais.
Et puis c'est Cancelo, donc tu dis si lui est capable de faire ce genre d'erreur, là, il emmène tout le monde avec lui, parce que je suis d'accord avec toi, c'est une faute extrêmement bête et dramatique pour le Barça.
Là, c'est 3-1 et derrière, là c'est encore pire quoi. Enfin, je veux dire, il allait avoir des occasions pour le PSG, mais là tu donnes un but. Finalement, en fait, c'est Hakimi que le PSG s'est un peu fait au match aller.
On avait
souligné quand même la bonne tenue de cette défense catalane. Bon, ça a été plus compliqué au match retour, mais la différence, c'est aussi que Barcola était titulaire et qu'il l'était.
Et quand on voit quand on parle de nervosité, on a vu sur des images que Xavi, à la fin du match, Xavi
il a même fait le signe zéro à l'arbitre. Je pense qu'il lui a dit des choses extrêmement
j'en profite pour
moi, et je le fais pas souvent, je vais le dire, pour féliciter monsieur Kovacs, que j'ai trouvé très bon. Et c'est vrai que quand un club français est arbitré par un bon arbitre, ça change quand même beaucoup de choses. Dans le passé, ça n'a pas souvent été le cas. J'espère que Lille et Marseille seront bien arbitrés jusqu'au bout. Mais bon, voilà, sans remonter jusqu'à la fameuse remontada. Mmh. Là, ce soir, on a eu un bon arbitre et ça s'est bien passé.
Cédric, quand même, un personnage peut se distinguer dans les rangs de Barcelone, c'est Rafinha. Rafinha qui, de nouveau, inscrit un but et marque un but très surprenant. Mais il est là encore, il est tout le temps là. Il a failli, je crois, pratiquement marquer un deuxième.
L'enchaînement double contact et la frappe trop croisée.
Je trouve qu'il est effectivement, il est souvent au bon endroit, au bon moment, ce qui est quand même le signe de qualité évidemment devant le but et là il était presque surpris de récupérer ce ballon parce qu'il est plus rapide, en tout cas plus prompt que Hakimi pour reprendre ce ballon mais c'est vrai qu'il a déjà quand vous mettez un doublé au match aller et un but au retour, vous avez réussi un peu votre double confrontation. Moi je suis un peu en tant qu'amateur de football, je suis un peu frustré parce que je trouvais que Yamal était vraiment le meilleur Barcelonais la pelouse.
On le voit sur leur but.
Après, finalement, c'est assez logique. Je vois pas comment Xavi peut faire autrement organiser son équipe. Il sort le joueur le plus jeune. Vous sortez pas Rafinha qui vient de marquer. Vous sortez pas Lewandowski. Vous sortez pas un des trois du milieu de terrain. c'était difficile, quoi. Donc, mais c'est parce que il aurait apporté, en fait, il aurait forcément gêné le PSG, notamment parce que il faisait reculer Nuno Mendes de 10 ou 15 mètres à chaque fois. Il le passait à chaque fois.
Ouais, il l'a mis en difficulté.
Le mettre en difficulté.
Ça souligne
c'est un impact aussi sur l'autre équipe.
Ça souligne aussi peut-être l'absence de profondeur de banc du côté du Barça, parce que finalement, Inigo Martinez, il est rentré, c'était n'importe quoi. Ferran Torres était Félix. Alors, Joao Félix, il a joué 10 minutes, c'est même étonnant qu'il rentre à la 79e, un joueur comme ça. Ils sont rentrés, ça n'a rien changé du tout. Donc, en fait, finalement, tu as eu du coaching pour rien. Quoi.
Et Sergi Roberto aussi, qui avait été présent au premier match.
Il disait que ça allait avoir son incidence, que Christensen et Sergi Roberto ne soient pas là. Bon, on sourit un petit peu, mais c'est vrai que là, s'il peut faire rentrer Christensen à la place, peut-être que c'est autre chose.
Et c'est vrai que le banc...
Comme quoi chaque décision, chaque suspension peut avoir son incidence à un moment donné.
Et le banc, là, on voit que les choses se sont inversées ces derniers temps. C'est que le banc du Paris Saint-Germain, maintenant, ressemble à quelque chose. Ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, ils ont un banc conséquent. Donc, quand on fait des changements et des remplacements... Asensio qui est à court de forme, c'est sûr, mais ça reste un magnifique joueur. Donc quand il rentre, il peut faire énormément de différence. Il y avait Kolo Muani, il y avait d'autres joueurs. Voilà, il y avait Ramos qui est tellement pas apprécié par son coach.
La semaine dernière, on avait dit que ça manquait quand même d'éléments sur le banc. La composition faisait que...
La semaine dernière, parce que les bons joueurs étaient sur le banc. La semaine dernière, ils n'étaient pas sur le
terrain. Justement. Oui.
Donc il s'était trompé, d'ailleurs il a rectifié. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est il y a des joueurs comme Ramos qui restent sur le banc, qui sont des très bons joueurs. Et donc ça veut dire qu'au Paris Saint-Germain, contrairement au Barça, il y a un banc.
Mais c'est pas qu'il y a un banc, c'est que Luis Enrique arrive surtout à concerner tout le monde, je pense, par rapport à Xavi, parce que quand je vois le comportement des remplaçants à Barcelone, je me dis que peut-être certains ne sont déjà plus au Barça dans leur tête. Et je trouve Joao Félix, c'est quand même un joueur de classe mondiale qui coûte cher, qui vient de Chelsea, pourrait encore partir pour très cher dans un très bon club européen. Finalement, on rentre sur les 10 dernières minutes, tu le vois pas. Et je me dis, comment se fait-il qu'un joueur de ce niveau, quand bien même il soit difficile à gérer dans un vestiaire...
Là, je pense que Xavi, autant il ne s'était pas trompé sur le match aller, autant là, peut-être qu'il était trop énervé, qu'il s'est trompé sur le match retour. On va écouter une dernière réaction côté Paris Saint-Germain, et c'est celle du président Nasser Al-Khelaïfi.
C'est un magnifique moment pour le club, historique. Ce n'est pas facile pour gagner ici. Tout le monde ensemble, tout le monde battre pour les autres, l'ambiance, tous. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut vraiment qualifié pour demi-finale. J'étais vraiment un grand entraîneur, le meilleur entraîneur au monde. On a vraiment les joueurs, l'équipe. On était une équipe, vraiment, on a montré. Vraiment, on veut aller le plus loin.
Alors en français, Nasser Al-Khelaïfi, il a le meilleur entraîneur du monde.
Oui, il exagère un peu, juste un peu.
Décidément, entre les louanges de Dembélé et de
n'est-ce
Al-Khelaïfi, non mais en tout cas, voilà, c'est bête, c'est peut-être de la communication, mais voilà. C'est,
en tout cas, il les aura ramenés en demi-finale.
Ça fait partie aussi de l'unité. Il y a une forme d'unité qu'il n'y avait pas forcément ces derniers temps.
Et puis Luis Enrique a retrouvé de la raison également. Dans des matchs aussi importants, il a mis une équipe qui ressemblait plus à une équipe qui pouvait se qualifier.
Après, il démarre sans numéro 6 et sans numéro 9 de métier. Alors aujourd'hui, ça lui sourit, ça sera une parenthèse.
Parce qu'il est fâché avec Ramos et Kolo Muani.
Je suis assez d'accord avec Naïm.
En numéro 6, c'est Vitinha maintenant qui joue devant et fait quand même bien le job. Parce que c'est lui qui m'impressionne le plus en ce moment.
Il fait bien le job, mais c'est un peu donner de la confiture au cochon. Parce que quand tu vois la qualité technique et même la qualité de finition qu'il a, tu dis, lui, il faut qu'il joue 10 mètres plus haut.
Ouais, mais il arrive en plus parce que tu vois, il est capable de marquer.
Plus avec Mbappé.
Il est impressionnant, mais. Écoute, il fait avec ce qu'il a. Il a quand même pas mal de matériel. Donc aujourd'hui, Paris Saint-Germain, reste une équipe impressionnante. Elle est en demi-finale et le chemin s'ouvre un peu devant.
Bien, on va parler de l'adversaire futur de ce Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Cédric de Oliveira d'avoir été en direct avec nous ici dans ce studio. Et bonne fin de nuit pour vous du côté de Barcelone. Criez-leur bien fort, remontez.
À bientôt. Ciao.
Merci beaucoup Cédric. Allez, on passe à l'autre match et donc l'adversaire, ce sera le Borussia Dortmund.
Yeah, it's definitely one of the best places in the world of football, and we want to.
Extérieur superbe de Matsumoto pour Julian Brandt. Oh, le geste exceptionnel à la base. Matsumoto pour venir trouver Julian Brandt. Inscrire son deuxième but de la saison en Ligue des Champions, faire exploser le Westfalen.
Grant. Appel dans la profondeur et bon service à destination de Marcel Zabetza. Centre de l'Autrichien. Et le voilà, ce but. Ça fait 10 matchs qu'il attendait Stanik. Ça se fait croquer là.
Suspense tout en si grand, vous l'avez compris, du côté de Dortmund. Il y a eu des très hauts et des très bas devant le public du Westfalenstadion, puisque un coup ils étaient qualifiés, un coup ils ne l'étaient plus. Enfin bon, ça a beaucoup...
Ouais, c'était fou aussi. Hein.
Ça a été très en dents de scie. Et finalement, c'est donc devant leur public que les joueurs du club allemand ont pu fêter leur victoire. 4-2, on a eu un continuum assez incroyable du nombre de buts. Hein. Ils arrivaient avec un but de retard seulement.
Oui, et puis des renversements de situation, mm-hmm. 2-0, 2-2, 4-2. Alors moi, je ne vais pas mentir à nos auditeurs, on n'a pas particulièrement regardé ce match, mais sur ce qu'on a vu, c'était assez impressionnant. Et moi, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est de dire que voilà, on retrouve deux équipes en demi-finale qui étaient dans le même groupe, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain et Dortmund. Voilà, c'est sûrement pas un hasard. Et là, éliminer quand même l'Atlético, ça reste là aussi une énorme performance.
Mmh. Bah, c'est surtout leur collecte 4 buts. Parce que même à domicile, l'Atlético, t'as quand même, il arrive finalement avec la même équipe qu'au match aller. Là, c'est 5 défenseurs, c'est 2 joueurs devant la défense. Et alors, il faut quand même dire que Morata a eu une énorme occasion au bout de 10 minutes et que s'il la met, c'est peut-être pas le même match.
Morata, hein.
Mais Dortmund, ce qu'a fait Dortmund est très bon, c'est à souligner. Et ça reste un client... à suivre pour cette Ligue des Champions, d'autant que lui, en championnat, il est cinquième. Pour l'instant, il n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Il a 2 semaines...
Ah, perdu au cours du week-end. Hein.
Ouais, les 2 prochains matchs, j'ai regardé, c'est Leverkusen et Leipzig. Ouais. Alors peut-être que Leverkusen aura peut-être la tête ailleurs parce qu'il est champion.
Ah oui, mais il ne veut pas être invaincu.
Potentiellement, la possibilité de jouer la Ligue des Champions pour Dortmund la saison prochaine, c'est de gagner celle-là, ce qui est un doux rêve hein, quand on voit l'autre moitié de tableau. Mais non, c'est à souligner, mais pas 4 buts à l'Atlético de manière anodine, et c'est un client à suivre pour le PSG. Le PSG les a déjà battus hein, en phase de poule, hein, donc il y aura peut-être aussi un avantage au moins psychologique là-dessus, mais ça sera un match à prendre au sérieux.
Oui, surtout qu'il y a eu des moments difficiles quand Mats Hummels finalement met ce but contre son camp, on se dit tout est à refaire pour eux quoi.
Ouais,
c'était
ouais.
compliqué.
Non, je trouve que quand ils sont rejoints de partout, ils ont encore la force mentale d'aller gagner ce match 4-2. Ils ont même des occasions après pour définitivement écraser cette partie. Mais bon, même si l'Atlético cette année défensivement n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle proposait ces dernières années, bon, ça reste une énorme performance. Et les revoilà. Alors eux, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, mais les revoilà en demi-finale. Là aussi, c'est une énorme performance, franchement.
Ils avaient été finalistes à Wembley. On s'en souvient, c'était en 2013. Ouais. C'était contre le Bayern Munich. Ouais. Et ils s'étaient inclinés sur le score de 2-1. À l'époque, leur entraîneur était un certain Jürgen Klopp, qui depuis l'a remporté cette Ligue des Champions avec Liverpool.
Il faut quand même voir que, mine de rien, c'est une équipe qui, en l'espace de 2 ans, a perdu Haaland, Bellingham, qui continue de jouer avec des joueurs anciens. Hummels, il a plus de 30 ans et puis ils ont retrouvé Sancho,
qui sort
d'une expérience très compliquée à Manchester United. Il y a Marco Reus qui est toujours sur le banc. Il y a Julian Brandt qui est pétri de talent, mais dont on n'arrive jamais vraiment à savoir sur la régularité ce que ça vaut. Donc c'est une équipe
Sabitzer,
parmi...
c'est très bon, tu l'as dit.
Ouais, Sabitzer, c'est pas mal.
Ils ont marqué tous les deux, hein, Brandt et Sabitzer
ce
soir.
Ouais. Et donc tu te dis, parmi les équipes qui vont rester, parce que faut être pragmatique, hein, si tu regardes ce qui se passe de l'autre moitié de tableau, Dortmund serait évidemment sur le papier l'équipe la plus faible. Mais tu te dis que ce serait potentiellement une des plus compliquées à jouer, parce que je ne veux pas dire que tu n'as rien à perdre quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions, mais ce qui est sûr, c'est que tu as moins la pression que quand tu es le Real, quand tu es le PSG ou quand tu es Manchester City. Et ça peut être l'épouvantail dont tu as besoin cette compétition.
Ouais, et sans Sébastien Haller, hein, qui n'était pas là ce soir, et qui est toujours un joueur...
Mais avec Kobel.
C'est un vrai buteur, ouais, ils ont un super gardien.
Kobel, c'est un des meilleurs gardiens du monde actuellement.
Mais quand il y a Haller, je pense que ça va mieux quand même pour Dortmund. Il est capable de marquer n'importe quand.
Malheureusement, on ne sait pas trop quel est l'état physique de Haller, parce que cette saison, c'était déjà compliqué.
Oui, c'est
il était
dentier,
était rarement titulaire aussi avec l'équipe.
Il est souvent blessé. Donc
revenu blessé de la CAN.
Mais je pense que le problème, alors on ne va pas lui reprocher d'avoir fait la CAN, surtout qu'il l'a gagné, mais je pense que le fait d'avoir été utilisé comme ça à la CAN avec des matchs très répétés.
Il a fait des gros efforts pour revenir.
Il est arrivé en quart de finale seulement. Hein,
ça ne l'a pas aidé. Hein.
Il n'a pu revenir que sur le tard. Mais bon.
Après, grosse évolution quand même du foot allemand. Leverkusen, champion, ça fait 10 ans. On met fin à une dictature de 10 ans et pas une belle dictature, parce que sur les dernières années, les titres du Bayern n'étaient quand même pas jojo.
Bah, donc l'année dernière, d'ailleurs, enfin, les autres, c'était à la différence de but.
Ils n'auraient jamais dû être
champions. Leverkusen,
champion. Dortmund en demi-finale. C'est à 3 mois de l'Euro à domicile. C'est pas mal, le foot allemand envoie des signaux positifs et ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas envoyé.
Et Leverkusen toujours qualifié en Ligue Europa et ce que fait cette équipe, c'est fantastique. L'équipe de Xabi Alonso, 43 matchs, 0 défaite. C'est complètement les seuls en Europe, donc ça reste fantastique. Donc, et c'est peut-être pour ça que Dortmund est finalement 5e de Bundesliga.
Il y a Stuttgart aussi qui a fait le trou de manière un peu, il jouait le maintien l'année dernière. Ouais. T'as Guirassy qui a 26 buts, enfin c'est complètement fou. Il dépasse le record de Mario Gomez l'année où il jouait là-bas, donc bon. La saison est un peu folle en Bundesliga, mais tant mieux, tant mieux. Mm-hmm.
Edin Terzic, finalement, ça lui fait du bien, parce que c'est vrai que c'était en championnat, justement, c'est un peu compliqué cette année après cette défaite incroyable l'année dernière sur le dernier match de la saison qui les prive du titre.
Ouais.
Et là, cette année, c'est un peu une espèce de revanche, même si là, ils sont loin du titre.
Ouais, et il y a quelques semaines, il faut se rappeler qu'ils ont gagné 2-0 au Bayern. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est capable d'exploits.
À Munich.
Et se qualifier comme ça, moi je trouve que éliminer l'Atlético, c'est jamais, ça peut pas être un hasard.
Ah bah non.
Donc c'est une équipe, évidemment, comme Naïm l'a dit, quand on regarde les équipes sur le papier, mais sur le papier c'est toujours dangereux, je pense qu'il faudra les prendre extrêmement au sérieux. Après, il y a une finale au bout, donc je pense que le Paris Saint-Germain ne se trompera pas. Mais il faudra vraiment les prendre au sérieux parce qu'ils sont capables de très grandes performances.
Et puis, il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est chez Terzic. Voilà. Comme chez Klopp, comme chez Tuchel, comme chez Nagelsmann, il rentabilise absolument tout parce qu'il n'a pas un effectif très riche en nombre. Il est souvent amené à faire jouer des joueurs qui, sur le papier, n'ont peut-être pas forcément le niveau pour être titulaire. Il a beaucoup de blessés et est souvent amené à changer de poste des joueurs. Je pense à Özkan, je pense à Emre Can, je pense à un joueur comme Adeyemi, souvent, qui sont obligés un peu de switcher parce qu'il n'est pas très riche et il rentabilise absolument tout.
Marco Reus, qui ne joue pratiquement plus.
Qui ne joue plus du tout.
Il est souvent blessé, malheureusement. Ça a toujours été son problème.
Il rentre en fin de match, mais bon, ça, lui aussi, c'est un beau joueur.
On y reviendra demain dans Radio Foot International sur cette affiche à venir entre le PSG qui s'est donc qualifié ce soir et Dortmund qui s'est aussi qualifié. Mais pour l'instant, on va parler Jeux Olympiques.
Et à présent, que la plus belle fête du monde commence, celle des Jeux Olympiques. Kyries ke kyrie, dalemesto parisi. Rendez-vous le 26 juillet à Paris 2024. Merci.
Un peu de bouzouki et le compte à rebours est lancé très concrètement grâce à cette déesse grecque notamment. Depuis en tout cas que la flamme symbolisant les Jeux Olympiques a quitté ce matin le site d'Olympie, la ville qui dans l'Antiquité a abrité les premiers Jeux Olympiques de l'histoire. C'est dans le Péloponnèse, en Grèce. Alors la flamme n'arrivera que dans 11 jours en France. Hein. Elle va prendre son temps, mais elle est relayée. Les gens courent. Hein, donc, oui. Non, elle ne s'éteindra pas apparemment. Il y a une sécurité. Elle arrivera à Marseille et elle sera utilisée donc le 26 juillet pour allumer la vasque qui s'enflamme durant une Olympiade. Et ce sera donc évidemment à Paris. C'est à l'abri de ce symbole que seront donc lancés les Jeux de la 33e Olympiade, 32 disciplines, dont les matchs de football. Alors là, on va s'amuser. Hein, on a un peu de temps. On va s'amuser. Je vais vous poser des questions. On dit toujours que fait le football aux Jeux Olympiques. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que d'après vous, ça fait longtemps que l'on joue au football aux Jeux Olympiques?
Depuis 70.
Je dirais 80. Moi.
70.
Alors je vais vous donner des options. En quelle année a eu lieu le premier tournoi de football masculin?
30.
J'ai trois dates, ou 1908, ou 1948, ou 1988.
Bah, ça ne peut pas être 88 parce que la France a gagné le tournoi en 84.
Oui, oui.
Donc celui-là, on est à 1000. Est-ce que vous pouvez nous dire les deux autres?
48 et
1948 ou 1908
1908.
Eh bien alors, Nabil, vous avez raison. Et dans un sens, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait un tournoi olympique, mais il y en a eu. Ça a commencé en 1900, au JO en fait de Paris, c'est-à-dire la deuxième Olympiade, puisque la première est en 1896 à Athènes, en Grèce. Et, mais à l'époque, il y avait un peu n'importe quelle équipe. Pierre Guérin. Non, à chercher, mais. Fixe. S'il y avait un club anglais, c'est celui qui avait gagné d'ailleurs, Upton Park Football Club. Ensuite, on avait un club français qui n'est même pas dénominé d'ailleurs. Et on avait la Fédération Athlétique Universitaire Belge. Donc, une congrégation un peu de bons joueurs. Et puis, peu à peu, ça a commencé.
Ça s'est professionnalisé, on va dire.
Ça s'est professionnalisé. Et en 1908, les premiers à gagner, logiquement, c'est...
Les Grecs.
Bah non.
Alors, attendez, 1908.
Les gardiens du temple. Et puis ensuite, bon, alors on a noté des choses intéressantes. 1936, les Jeux de Berlin. C'est l'Italie qui gagne. Mais si je me souviens bien de mes lectures, ils gagnent contre l'Autriche et c'est un match un peu pipé parce que Hitler voulait, je crois, faire plaisir à Mussolini vu que les Allemands n'avaient pas joué. Il y a une histoire comme ça. En 1984, effectivement, la France gagne. Quelles sont les premières équipes africaines?
Bah, le Nigeria et le Cameroun.
Nigeria, ouais.
Nigeria. Quelle année?
Alors, 2000 et 2004 96
Non, avant le Nigeria.
À Barcelone, il gagne. Le Cameroun, il gagne en 96.
C'était avant, non?
Mm-hmm. 96 ouais, le Cameroun. Avant,
je me rappelle, c'est Patrick Mboma, je me rappelle.
Bon, je sais que le Cameroun, ils battent. je sais que l'Espagne, ils se font battre par le Cameroun en finale, j'en
et
suis
Nigeria
sûr.
Le Nigeria bat le Brésil, non?
Et le Nigeria bat l'Espagne aussi.
L'Argentine, la famille suprême. Alors, le Nigeria, vous avez raison, mais c'est 96, les Jeux d'Atlanta. Ouais. Et l'an 2000 pour ce qui est du Cameroun, qui bat donc l'Espagne.
De Raoul, je crois qu'il y avait Raoul.
D'accord. Et l'Argentine va gagner en 2004 avec un certain.
Lionel Messi.
Voilà, dans ses rangs.
Et c'était aussi la première participation de Cristiano Ronaldo. Avec le Portugal en 2004, ils avaient battu l'Irak. Je me souviens, j'ai regardé le match.
Et qui est détenteur du titre?
Heureusement. Là
ouais.
On est en quelle année, là? On est en
2024.
Oui, au Japon, c'est qui gagne. De toute façon, nous, ça avait été un fiasco, la France.
Mm-hmm. Avec on n'avait pas surtout Tova. Envoyé beaucoup de joueurs.
Ouais. Oh, je ne serais capable de dire.
Eh ben, en fait, c'est les Brésiliens qui sont double détenteurs du titre. Ils gagnent en 2016 chez eux et ensuite en 2020. Quel est le pourcentage de succès des pays hôtes dans le tournoi olympique? Je vous donne trois pourcentages. 15, 55 ou 70%?
15.
Je ne vais pas dire la même chose que lui, je vais dire 55, mais bon, je pense que c'est
non,
beaucoup.
Non, mais Nabil, il est vachement
beaucoup,
bon. Hein.
C'est beaucoup, 55.
Non,
mais je me sacrifie, mais c'est beaucoup, 55.
C'est 15%.
Ouais. Je ne suis pas plus bon que ça, c'est juste par...
Quelle est la nation qui n'a jamais inscrit son nom au palmarès des JO? Vous savez que c'est important, c'est parfois, pour certaines équipes.
C'est-à-dire qui n'a jamais inscrit...
Qui n'a jamais remporté la médaille d'or.
L'Allemagne, non?
Non, mais il y en a plein qui ne l'ont jamais remporté.
Grande nation.
Ah, grande nation. L'Espagne?
Pas loin.
Le Portugal? L'Italie.
Voilà. Ouais. Bon, on pense à Mathéo, hein, bien sûr.
De toute façon, c'était dans la région.
Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, on se demande un peu pourquoi, la grande différence de niveau, ce qui est de l'organisation. Les garçons, cette année, c'est 16 équipes. Mais alors, on a les moins de 23 ans.
Et les filles, depuis quand elles
sont... Avec 3 équipes, 96 Atlanta.
D'accord.
Et les filles, 12 équipes. Mais alors là, on a les meilleures. On a le gratin. On a les meilleures joueuses. Bon, ça, c'est un des mystères. En tout cas, parmi les trois qui ont plus de 23 ans, quelles stars seront choisies dans l'équipe de Thierry Henry? Eh bien, vous allez l'entendre, le président Macron réclame clairement la participation de Kylian Mbappé.
Bizarre.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire? On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes. Je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi?
Exactement, quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'Euro, j'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on
libère un peu. Vous avez parlé avec Kylian
Mbappé ? J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club, surtout, lui laissera.
Est-ce que selon vous.
Il reste évasif.
J'espère qu'il va faire
sur le
beau
club, il reste évasif.
Hein, comme ça, il nous dit en passant.
Il a dit français, européen. Je ne sais pas. En passant,
il nous dit que c'est le Real Madrid qui sera Kylian, puisqu'il demande au Real de les libérer.
C'est extraordinaire, vous avez raison.
Oui, hein, c'est vrai.
Non, mais ça a l'air de rien, comme ça, c'est tellement évident que même lui le valide, quoi.
Il est dans les petits secrets et les grands aussi.
Il est dans les petits
papiers. En tout cas, il réclame sa participation. Il doit être dans les secrets des dieux de l'Olympe. Vous le voyez encore possible?
Non.
Ça me paraît beaucoup quand même en termes de compétition. Déjà là, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Après, tu enchaînes l'Euro. Après, tu dois enchaîner les JO. Ça me paraît beaucoup, vraiment. Alors, ça serait mieux pour la France, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
Moi, j'y crois pas parce que, en fait, c'est pour des raisons économiques, tout simplement. Et Emmanuel Macron le sait aussi bien que nous, lui qui a travaillé très longtemps dans la finance. Pour le Real Madrid, c'est un investissement. Et ils ont à ce moment-là une tournée en Asie. Et c'est là aussi où ils capitalisent, aux Amériques. C'est là aussi où ils capitalisent sur leur nouvelle star. Et ils vont chercher des sous. Donc le Real, si vous voulez dédommager économiquement...
Si on dit qu'il y a Mbappé dans les rangs, mais qu'il arrivera après...
Non, ça ne marchera pas, ça. Si on les dédommage, par exemple, si on leur fait un chèque de 10 millions, on leur dit « Bon, bah, vous nous laissez, vous le mettez à disposition, on vous compense économiquement le manque à gagner à venir sur votre tournée,
qui
peut-être qu'il le fera. »
C'est Mbappé qui fera le chèque, alors.
Bah, Monsieur Macron, peut-être qu'il... non, je ne sais pas.
Je crois qu'il y a un déficit.
Je plaisante, mais quand il dit « j'espère », c'est comme moi, j'espère qu'il fera beau demain, quoi, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, il n'y a pas de levier.
De toute façon, dans le discours, là, on entend dans sa façon de répondre à la question, il part sûr de lui, après il fait bon, ah oui, alors il y a ça, puis ça, et puis bon, en fait, bon, bah, je sais
en
pas.
Fait, en fait, si je réfléchis.
En fait,
bien.
Il sait pas, en fait.
Non, mais il est dans son rôle, et puis il dit, ouais, il dit aux Français que. Il dit
je vais faire quelque chose, mais en fait, il sait quoi, en fait.
Il veut créer un certain.
Je pense qu'il a d'autres choses à gérer entre nous, mais enfin bon.
Bon, les amis, je dois faire une correction et c'est grâce à Mathieu De Gueldre d'ailleurs. En fait, je vous ai dit que l'Italie l'avait jamais gagné, mais en fait, l'Italie l'a gagné une fois et on l'avait même dit, c'était en 36 à Berlin.
Ah oui, bien sûr.
L'Allemagne ne l'a jamais gagné.
Voilà.
L'Allemagne de l'Est l'a gagné bien précisément et c'était en 76 à Montréal. Par contre, l'Allemagne récente était deuxième et c'était à Rio contre l'équipe emmenée par Neymar. Mais si donc on croit par contre les pourcentages qui nous ont été donnés, la France a 15% de chance. De remporter cette médaille olympique.
On peut le faire.
C'est pas mal, 15%. Ouais,
franchement, on peut le faire.
Hein oui.
Moi, je suis pas
si... Vous êtes sûr ?
Ah oui, ouais, je suis sûr. Ouais.
Et ben alors, c'est intéressant.
Ouais.
Et du coup, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'été.
Zahir Emery va jouer avec
les JO. Non, mais il n'y a pas qu'Mbappé, on a plein d'autres joueurs.
Oui, bien sûr, mais même, il y en a d'autres qui sont candidats. Et,
même Benzema est candidat.
Non, enfin, on lui a suggéré d'être candidat. Par contre, Griezmann,
par exemple,
a les faveurs.
Si vous avez Griezmann, Giroud, Ousmane
Griezmann
Dembélé,
aussi,
c'est l'attaque
des... Il fait l'Euro et autre chose après. Bon. Ouais. Et oui, la fin donc de cette émission, mais on va quand même revenir, c'était tout à l'heure qu'on parlait Jeux Olympiques évidemment, puisque la flamme se rapproche de Paris. Revenons sur les résultats du soir quand même, Ludovic Duchesne. On a donc PSG, Barça. Oui, PSG, Dortmund pour le tour d'après. PSG-Barça, les Parisiens sont allés gagner à Barcelone.
Oui, 4-1 avec un scénario défavorable au début. Premier quart d'heure très difficile. Et l'exclusion d'Araujo avec une percée de Barcola qui change tout. Barcola pas titulaire à l'aller. C'est vrai que Luis Enrique a changé 3-4 joueurs et ça a changé absolument tout dans ce Paris Saint-Germain. Et ils ont eu le mental et le talent pour aller gagner largement, 4-1. Et c'est vrai que le Barça nous a paru quand même très très nerveux. C'est une saison un peu bizarre avec Xavi qui a dit qu'il partait, tout ça. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse ambiance dans ce club, dans cette équipe. Voilà, et à un moment donné, tu vois, Naïm, je pense que ça se ressent quand tu traverses des moments difficiles. Ouais. Tu ressens ça.
Et Naïm, de l'autre côté, donc Dortmund a éliminé l'Atlético Madrid.
L'exploit qui confirme sa belle santé offensive et qui sera un client à prendre au sérieux parce que même si c'est sur le papier l'équipe la plus faible des demi-finalistes, quels que soient les demi-finalistes de demain, c'est une équipe qui pourra aller au bout.
Et c'est la fin donc de ce deuxième Radio Foot International. Merci messieurs, merci beaucoup Annie. À tous de nous avoir suivis pour cette soirée exceptionnelle. Et on se retrouve demain pour deux rendez-vous encore avant et après. Et il y aura notamment un Manchester City-Real Madrid, ça promet.